Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Plein feu aujourd'hui sous la participation des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au débat général de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Vous suivrez dans ce magazine les propos des dirigeants de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Tchad, du Burkina Faso, du Gabon, ainsi que de la République centrafricaine et de la République démocratique du Congo. La plupart de ces personnalités s'expriment au micro de la radio des Nations Unies sur la situation de leur pays par rapport au développement économique et social, aux OMD, à la paix, la sécurité et la démocratie. Bonjour à toutes et à tous, au micro Jean-Pierre Amissi Ramazani. Commençons ce magazine par l'Afrique de l'Ouest. Le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, tout en soulignant les défis à relever au Sahel, évoque quelques avancées de son pays en matière d'éducation et de santé.
Je pense que les défis sont ceux des Nations Unies sur le Sahel, à savoir qu'aujourd'hui, dans cette région, nous avons besoin de consolider la gouvernance afin de donner des capacités plus grandes aux populations pour être dans des processus de développement inclusif. Et nous avons aussi comme défi de coordonner davantage nos efforts, gérer les questions de sécurité de façon collective et veiller à ce que sur le terrain de l'intégration économique, les nations puissent encore renforcer leurs liens, car c'est cela qui va donner plus de capacité à notre région ouest-africaine de s'assumer comme les autres régions du monde.
Monsieur le Président, parlez-moi des principales avancées du Burkina Faso par rapport aux OMD, aux objectifs du millénaire pour le développement.
Là où nous avions des retards très importants, c'était au niveau des ressources humaines, c'est-à-dire faire en sorte que la scolarisation, la santé, donc l'éducation, les questions du niveau de vie, les questions de l'environnement de la vie pour les hommes, que tout cela s'améliore. Or, les chiffres montrent, si l'on prend que la scolarisation, que nous sommes partis très bas, hein, parmi les pays les plus en retard. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà au moins à 80% de scolarisation. On pense que 2015, on va pouvoir atteindre les 100% dans le domaine de la santé. On a vu aussi le mouvement positif de l'espérance de vie. Bon, les grandes maladies comme on avait le VIH-Sida, la méningite ont été contenues aujourd'hui. Donc il y a un meilleur environnement humain pour notre peuple selon les objectifs. Mais nous espérons en post-2015 faire mieux et plus.
De son côté, Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, explique l'état de la démocratie et l'évolution de la situation sécuritaire dans son pays.
Nous avons eu des élections démocratiques, comme vous le savez, en 2010, avec malheureusement des difficultés. Mais maintenant, cette crise post-électorale est consommée. Et nous avons par la suite organisé des élections législatives et des élections locales, municipales et régionales, qui se sont également bien passées, qui se sont passées dans la transparence, dans la paix. Et maintenant, donc, le cycle électoral est terminé. Maintenant, il faut renforcer cette démocratie par l'état de droit. C'est également notre volonté. Et nous y travaillons avec la remise en ordre dans le système judiciaire et donc l'amélioration de tout l'appareil judiciaire. Maintenant, en matière de sécurité, il y a une très bonne évolution. À la date d'aujourd'hui, Abidjan est une ville où on est plus en sécurité que New York ou Marseille, hein, je peux vous le dire. Nous avons moins de braquages, nous avons moins d'assassinats, nous avons moins de vols, etc. Pourtant, c'est une ville de 6 millions d'habitants. Mais il faut aller au-delà. Donc, nous avons de nombreux jeunes gens qui sont des ex-combattants, 65 000 environ, qu'il faut désarmer, démobiliser et surtout leur trouver un emploi. Et nous faisons également une réforme du secteur de la sécurité.
Toujours sur la sécurité, le nouveau président du Mali, IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, parle de la présence de la MINUSMA ainsi que de la situation actuelle à Kidal. Monsieur le Président, vous avez dit dans votre discours que le Mali avait recouvré l'intégrité territoriale. Alors, est-ce que les groupes terroristes ont été maîtrisés actuellement ?
Ils le sont. Il y a une minorité qui continue à s'agiter à Kidal. Nous voulons là aussi privilégier les voies de dialogue pour ne plus avoir d'engagement militaire au Mali. Nous sommes donc en pourparler avec les frères qui mieux en mieux comprennent l'intérêt qu'il y a pour eux à venir pour qu'ensemble nous participions à la construction de ce pays au lieu que de nous combattre, au lieu que de qu'il y ait encore d'autres morts. J'ai bon espoir que cette poche également aussi sera résorbée par la compréhension, par la discussion et par la négociation.
Qu'attendez-vous concrètement de la MINUSMA qui est dans votre pays actuellement ?
Qu'elle assume sa mission, toute la mission que le Conseil de sécurité lui a confiée. Et je pense que la résolution 2085 est très claire. Il y a là une mission de contribution au retour de l'intégrité territoriale du Mali, une mission d'apaisement, une mission de soutien au Mali, aux efforts du Mali pour son développement et pour l'instauration de la démocratie et pour également la promotion des droits humains.
Concernant maintenant l'Afrique centrale, Idriss Déby Itno, le président du Tchad, s'explique sur les interventions de l'armée tchadienne au Mali et actuellement en République centrafricaine.
Monsieur le président du Tchad, Idriss Déby, le Tchad est sur tous les fronts en Afrique aujourd'hui. Les militaires tchadiens ont été en Afrique de l'Ouest. Ils sont maintenant en Centrafrique. En fait, peut-on dire que le Tchad est devenu le gendarme de l'Afrique de l'Ouest et du Centre actuellement ?
Non, pas du tout. C'est trop dur. On a donné certains qualificatifs en action qu'a eu à mener nos forces, gendarmes d'Afrique, boucliers de l'Afrique et autres, des dangers qui guettent l'Afrique. Ces dangers ne visent pas un seul pays d'Afrique, en particulier les pays au sud du Sahara. Ces dangers, en fait, disons, visent l'ensemble de ces pays-là. Qu'il s'agisse du Mali ou de la République centrafricaine, qui est un pays voisin. Ce qui est arrivé au Mali est arrivé déjà au Niger, ce qui est arrivé au Niger est arrivé au Tchad. Après le désordre créé en Libye, le nombre d'armes qui ont été sorties de ces pays-là. Donc il fallait donc prévenir que guérir. C'était quelque chose d'inacceptable. Voir en fait, disons, un pays fut-il ami comme la France s'engager seul sur le théâtre pour défendre l'Afrique, sans la présence africaine. En République centrafricaine, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les forces de l'Afrique centrale sont en permanence sous plusieurs noms depuis 1994, la date de la mutinerie.
Quelle est la situation du Tchad aujourd'hui par rapport à la démocratie ?
La démocratie, je crois que c'est mieux qu'ailleurs, partout ailleurs. Au Tchad, vous n'avez pas de prisonniers politiques. Vous avez plus de 180 partis politiques, plus de 2000 et quelques associations de la société civile, des dizaines d'associations de droits de l'homme, des organisations syndicales éparses, diverses et nombreuses. Le ton des journaux de la place et de nombreuses radios qui n'arrêtent pas de nous taper dessus. Pour autant, ça ne nous dérange pas. Personnellement, j'ai pris l'engagement il y a plus de 10 ans de ne pas chasser un journaliste pour ce qu'il aurait dit à la radio, à la télévision ou sur ses papiers.
Et le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, insiste, lui, sur le développement économique et souligne le lien entre la pauvreté et le terrorisme.
Il est important de se rappeler que notre combat, le vrai, est celui du développement économique. Et que nous devons mettre tous nos efforts pour assurer un développement qui soit juste, équitable pour toutes nos populations. Malheureusement, au moment où les Africains devraient plus s'impliquer dans le développement économique, nous sommes en proie à un certain nombre de problèmes, notamment sur le terrorisme. Problème devant lequel nous sommes mal préparés. Car c'est un phénomène nouveau que nous ne connaissions pas en Afrique et qui vient aujourd'hui nous heurter, nous frapper durement. Mais cela veut dire qu'il faut que nous répondions à cela. Ça veut donc dire qu'il va falloir que nous consentions plus d'efforts dans les questions de défense. Réorganiser nos forces, mieux les entraîner, mieux les équiper, développer aussi leur enseignement. Bon. Alors tous ces efforts vont quelque part nous divertir de la mission principale qui aujourd'hui devrait être la nôtre, assurer un développement économique. Mais encore, il est clair, voilà le lien, pas de développement sans sécurité. Donc voilà pourquoi nous appelons la communauté à œuvrer à nos côtés pour assurer que nous puissions tous, parce que c'est un combat, aujourd'hui il est clair que personne ne peut gagner seul. Et si les grandes puissances éprouvent encore beaucoup de difficultés face à des actes terroristes, puisque certains actes sont commis sur le sol, d'un certain nombre de puissances. Imaginez la problématique pour l'Afrique. Donc c'est un problème que les chefs d'État africains discutent et que nous voulons prendre à bras le corps. Et nous sommes décidés à aussi contribuer pour éradiquer ce mal. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls et c'est un effort de toute la communauté internationale.
Le Gabon abrite le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Alors, qu'est-ce que le Gabon apporte comme contribution pour la paix, la sécurité, le développement en Afrique centrale?
Le Gabon, comme les autres pays de l'Afrique centrale, à l'heure actuelle, est totalement impliqué dans la résolution de la crise centrafricaine. Il s'est tenu à Libreville un certain nombre de réunions importantes qui ont débouché sur la signature des accords de Libreville, qui doivent gérer la transition et permettre à ce pays de pouvoir, dans un délai de 18 mois, retourner aux urnes et élire vraiment ses dirigeants. Donc, mais avant d'arriver à cela, il est important que nous puissions faire taire les armes.
Et faire taire les armes est aussi le vœu exprimé par le Premier ministre de la République centrafricaine lors du débat général de la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU. On écoute Nicolas Tiangaye, Premier ministre de la RCA.
La coalition CLK ayant été dissoute, on entre dans une dynamique de fusion de cette dernière et des forces armées centrafricaines. Et c'est au moment où ces efforts sont en train de se faire pour ramener la paix et la sécurité dans mon pays, qu'une nouvelle flambée de violence a éclaté dans certaines préfectures de la République centrafricaine, à Bossangoa et à Bouka, entraînant des affrontements armés entre les éléments de l'ex-Séléka et des bandes organisées en groupes d'autodéfense, se présentant comme des partisans de l'ancien président en vue de la reconquête du pouvoir. Des familles de confession musulmane ont été massacrées, ce qui a entraîné des représailles d'une rare cruauté de la part des ex-Séléka à l'encontre des populations chrétiennes et des paisibles citoyens.
Enfin, sans la paix, tout développement est hypothétique, souligne le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, suite aux guerres récurrentes et ses conséquences dans les provinces de l'est de son pays qui affectent la région des Grands Lacs en Afrique.
La rupture de la paix est le fait d'une agression. C'est la triste histoire récente de mon pays. Il est à ce jour important de rappeler une double réalité, souvent méconnue ou occultée, à savoir que c'est pour avoir posé un acte de solidarité en accueillant sur son territoire des réfugiés originaires du Rwanda que les populations congolaises de l'est de mon pays sont privées de la paix, droit élémentaire de tout être humain, et qui n'arrêtent de compter le mort, l'épisode le plus récent de cette tragédie sans fin étant celui des femmes et enfants de Goma, aplati sous les bombes au mois de juillet dernier. Une véritable tragédie dont l'ampleur n'a d'égal dans l'histoire de l'humanité et qui ne peut laisser cette dernière indifférente. Il y a lieu de se demander ce qui resterait du droit international humanitaire si accueillir les réfugiés en détresse, acte humanitaire par excellence, devait désormais être considéré suffisant pour justifier le déclenchement d'une guerre.
C'est sur cette note que s'achève notre magazine Escale, consacré aujourd'hui à la participation de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au débat général de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies au siège de l'ONU à New York. Escale est un magazine de la radio des Nations Unies. Il vous a été présenté par Jean-Pierre Amissi Ramazani avec l'assistance technique de Rebecca Mudio et de Carlos Macias. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de l'avoir écouté. À la semaine prochaine.